l'Acadie, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM
et en podcast sur toutes les plateformes.
Bonjour à toutes et à tous sur la radio Jacques Addy du lycée Jacques Prévert. Nous sommes sur la fréquence 96.2, disponible en podcast sur Apple Music, Deezer, Spotify et toutes les plateformes de streaming. Et sur ce, nous allons parler de l'organisation Amnesty en France et à l'international. Alors bienvenue dans ce Mag Amnesty.
Agir, préserver et lutter. Militer, dénoncer, s'engager, protéger. Agir ensemble pour un avenir commun. Face aux injustices du monde, luttons pour l'égalité des droits. Amnesty International, on se bat ensemble, on gagne ensemble.
Bonjour, c'est Jade Lilou et nous allons vous présenter ce mag Amnesty.
Bonjour.
Dans ce mag, nous vous présenterons Amnesty. Nous accueillerons Jules, Yakim et Gaspard pour quelques questions au sujet d'Amnesty. On parlera des titres de séjour, nous présenterons leurs actions en France et la course pour les droits humains. Mais on reviendra également sur les actualités internationales avec la peine de mort dans le monde, le traitement des femmes en Corée, le portrait d'un acteur international d'Amnesty, la dénonciation des crimes commis au Liban, les actions d'Amnesty au Soudan ainsi que l'accès à l'éducation et les droits des enfants. Nous poursuivrons avec les politiques migratoires des États-Unis et nous terminerons par la situation en Afrique du Sud après l'apartheid. Mais pour commencer, écoutons Daphné qui va nous présenter cette organisation.
Je vais donc parler d'Amnesty International, une organisation majeure dans la défense des droits humains dans le monde, dans le cadre de la récente ouverture d'une antenne au lycée. Amnesty International est créée en 1961 par l'avocat britannique Peter Benenson. Tout commence avec la publication d'un article intitulé « Les prisonniers oubliés », dans lequel il lance un appel en faveur des personnes emprisonnées pour leurs idées politiques, religieuses ou simplement pour avoir exprimé leur opinion. C'est de là que naît le concept de prisonnier d'opinion qui devient central dans l'action d'Amnesty. Très rapidement, le mouvement prend de l'ampleur et devient une organisation internationale indépendante. Son principe fondamental est l'impartialité. Amnesty ne dépend d'aucun gouvernement et agit uniquement sur la base de faits vérifiés. Elle enquête sur les violations des droits humains, publie des rapports et mène des campagnes mondiales pour faire pression sur les États. Cela ne signifie pas qu'elle est apolitique, car ses actions touchent souvent à des décisions publiques. L'organisation s'illustre notamment dans la lutte contre la torture, la peine de mort, les détentions arbitraires et pour la liberté d'expression. Cependant, elle ne soutient officiellement aucun parti ni candidat. Son fonctionnement repose aussi énormément sur la mobilisation citoyenne. Grâce aux signatures, aux lettres, aux pétitions et aux campagnes internationales, des milliers de personnes participent à ces actions avec des résultats concrets comme les libérations de prisonniers ou l'amélioration de leurs conditions de détention. D'ailleurs, en 1977, Amnesty International a reçu le prix Nobel de la paix pour son action en faveur des droits humains. Amnesty International est donc une ONG non partisane et engagée en faveur de la préservation des libertés individuelles dans le monde entier. Son action touche à des enjeux universels qui concernent chacun d'entre nous, y compris à notre échelle comme au lycée.
Merci à toi Daphné. Maintenant, nous allons accueillir Jules, Yakim et Gaspard, ceux qui ont permis la réouverture de la branche d'Amnesty dans le lycée, qui vont répondre à quelques questions de Laura.
Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de rouvrir l'antenne Amnesty International dans le lycée ?
Alors, on a décidé d'ouvrir cette antenne parce qu'avec Jules, en début d'année, on voulait s'engager politiquement et on ne savait pas trop comment. Et on a participé au voyage à Bayeux pour les reporters de guerre. Et lors du Salon du Livre, on a rencontré une personne qui était sur un stand de Amnesty et elle nous a encouragé à monter une association. Et donc quand on est revenu à Pont-de-Mer, on a engagé les démarches avec Julie et Hakim qui nous a rejoint après.
C'est vrai que d'avoir pu découvrir ce stand d'Amnesty au Salon du Livre, ça a été une belle offre car on souhaitait s'engager au sein d'une association, mais Amnesty s'est présenté comme ça et donc c'est vrai que Amnesty nous a ouvert une porte pour ouvrir cette antenne. Ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Amnesty International ?
Alors Amnesty International, c'est une organisation non gouvernementale qui milite pour les droits humains et pour la prévention des crimes de guerre commis à l'international ou en France. Et donc voilà, on est aujourd'hui représentant de cette association. Dans notre département, on est structuré par celle de Louviers. Et donc voilà.
Pourquoi est-ce important selon vous de parler des droits humains dans un lycée ?
Alors, pour ma part, je pense que c'est important de parler des droits humains au sein de notre lycée parce que pas forcément tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que pas tous les élèves ne s'intéressent à l'actualité. Donc nous, on a trouvé que c'était une bonne idée d'essayer d'initier les élèves aux causes, aux crises qui se passent actuellement dans le monde. Et c'est de là qu'est venue l'idée de fonder cette antenne dans le lycée.
On a eu aussi cette idée parce que l'année prochaine, pour une majorité des membres de Amnesty, on va avoir 18 ans, donc on va avoir le droit de vote. Et on s'est dit aussi que c'est important de se socialiser nous-mêmes et donc de choisir notre propre choix. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter ça, pour défendre les droits humains.
Et puis c'est vrai qu'au lycée, on a surtout affaire à une population assez jeune. Et c'est vrai que de prévenir et de sensibiliser sur ce qui se passe dans le monde, c'était plutôt quelque chose qui nous apportait beaucoup.
Comment s'est passée la réouverture de l'antenne ?
Alors, c'était très très long. C'est un processus qui prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. Le voyage à BE, comme j'ai dit tout à l'heure, il a été fait en octobre, si je me trompe pas. Et à partir de ce moment-là, donc après les vacances d'octobre, on a commencé le processus. Donc on a envoyé un message à Amnesty International France, qui nous a mis en relation avec différentes personnes au fur et à mesure, qui nous ont permis de réouvrir l'antenne. À travers un procès verbal, on en a parlé à l'approviseur, parce qu'on peut pas faire non plus n'importe quoi dans le lycée. Donc c'est un processus qui a mis beaucoup beaucoup de temps à être mis en place, qui nous a permis de officiellement réouvrir l'antenne jeune d'Amnesty International au lycée à la fin de décembre.
Quelles actions avez-vous déjà organisées ou prévues cette année ?
Alors, pour commencer, notre objectif, c'était de mettre en place justement cette chronique radio pour parler des causes qui intéressaient les élèves, puisqu'on a demandé aux élèves quel sujet vous intéresse. Et puis voilà, d'organiser cette journée radio pour que les lycéens puissent s'informer sur les actions d'Amnesty International, surtout à l'international, mais on parle également de la France. Et puis notre deuxième objectif, c'était que cette antenne puisse continuer de fonctionner, puisque le problème qui avait eu lieu auparavant, c'était qu'il n'y avait pas eu de successeur. Et donc on a essayé de trouver un successeur, et normalement l'année prochaine, l'antenne va continuer de fonctionner, et il y aura de nouveaux projets, on l'espère.
Alors, pour reprendre des propos, Yakim, c'est vrai qu'on a souhaité vraiment transmettre cette association. Du coup, par la suite, on souhaite se déplacer dans les classes afin de parler d'Amnesty et de ce qu'il en est. Et donc, de retrouver de prochains successeurs, même si les prochains sont en première. Par rapport aux secondes ou aux premières de l'année prochaine, il serait évident de les choisir.
C'est vrai que l'idée de l'émission radio, elle est tout de suite venue parce qu'une grande partie de nos membres, ceux qui ont adhéré à Amnesty International, font partie de l'atelier média, ce qui facilite un petit peu les choses parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec la radio, savoir faire des chroniques, des émissions. Donc ça nous a permis de vraiment bien réussir à structurer l'émission et à faire une émission de qualité, on l'espère.
Est-ce difficile d'organiser des actions dans un lycée pour une organisation politisée ?
Alors oui, bien sûr, pour reprendre tes propos, Laura, c'est vrai que par rapport aux projets qu'on veut mener, par exemple, si on veut installer des expos dans l'Agora, par rapport à la dégradation du matériel ou pour les financer, c'est vrai que c'est un gros problème. On a vu ça avec l'approviseur récemment. Et puis même par rapport à notre neutralité au sein du lycée, c'est difficile de ne pas franchir les bornes en termes d'actions concrètes qu'on veut mener. Mais on arrive quand même pour l'instant à mener notre petit projet.
D'autant plus que le lycée, c'est un espace public. C'est donc on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et donc il faut vraiment parler à beaucoup, beaucoup de personnes pour que tout se mette bien en place, pour qu'il n'y ait pas de désagréments.
Comment les autres élèves ont réagi à votre initiative ?
Alors, on a eu tout de suite beaucoup de gens qui ont été intéressés par le projet. On avait mis en place une liste, on avait mis des affiches dans le lycée, on a essayé d'en parler à un maximum de monde et on a rapidement récolté des dizaines de personnes qui étaient très intéressées par le projet. Et puis, ça se voit aujourd'hui avec ce premier projet qui se concrétise.
Est-ce que tout le monde peut s'inscrire à l'antenne ?
Alors oui, tout le monde peut s'inscrire. Bien sûr, c'est plus facile si c'est quelqu'un du lycée, mais oui, tout le monde peut s'inscrire. On a, Yakim l'a dit, il y a beaucoup d'élèves qui ont été attirés par l'association. Il y a aussi des professeurs qui sont inscrits, donc c'est très, très très bien.
Qu'est-ce que cet engagement vous apporte personnellement ?
Alors tout d'abord, pour nous, en tant que cofondateurs de cette antenne au lycée Prévert, ça nous a apporté des compétences, par exemple notre éloquence, savoir s'adresser à une classe de 30 élèves, ça nous a permis de travailler notre éloquence. Aussi, ça nous a apporté aussi beaucoup de valeurs humanistes dans ce monde individualiste. Créer une association comme celle-ci, ça nous apporte beaucoup. Et puis surtout de prévenir, de sensibiliser, c'était vraiment notre phrase choc, entre guillemets. Voilà.
C'est vrai que, comme l'a dit Jules, ça nous a permis vraiment d'acquérir des valeurs humanistes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va bientôt voter. Donc, c'est important de se socialiser comme on l'entend. Et donc, de vraiment diriger nos choix selon nos propres convictions.
Est-ce que vous pensez continuer ce type d'engagement après le lycée ?
Alors oui, moi je pense que je vais continuer, peut-être pas en recréer une carrément, mais oui je pense que je vais continuer parce que c'est toujours important d'être présent dans la vie politique et dans la vie de la société, parce que si on n'est pas présent, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas et donc qu'on n'est plus en accord du coup avec notre société. Donc je pense que c'est important de continuer ses engagements si l'individu le souhaite, et moi je souhaite continuer.
Oui, bien sûr, si au sein de mon établissement, dans le supérieur, ils proposent ce genre d'association, ou pourquoi pas, même en dehors du cadre scolaire, adhérer à une association, ce serait pourquoi pas un bon choix pour continuer mon engagement associatif.
Alors, pour ma part, je pense que c'est très important parce que ça nous a appris plein de choses pendant ces quelques mois avec les cofondateurs et puis les autres membres dans l'antenne. Et donc, je pense que ça nous suivra pour le reste de notre parcours, et pourquoi pas, s'il n'y en a pas, ouvrir... une antenne dans le supérieur, c'est une option qui peut être envisagée.
Quel message aimeriez-vous faire passer aux élèves qui hésitent à s'engager ?
Bah, n'hésitez pas, venez. On accepte tout le monde, bien sûr. Puis vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous engager, parce que si cela vous fait peur, bah, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez venir à quelques réunions, une ou deux, puis voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que si on s'inscrit directement, on peut se sentir obligé de travailler, de faire quelque chose. Donc non, on peut venir à une ou deux réunions et puis après savoir si on a vraiment envie de s'engager, parce que c'est aussi ça, la raison d'Amnesty. Donc oui, c'est pour ça.
Et puis même au sein de cette antenne Amnesty, c'est vraiment les élèves qui décident ce qu'ils veulent faire, leur projet. Par exemple, sur ce projet Mag Amnesty, on avait une cinquantaine d'élèves au départ qui adhéraient à notre association, et on a sélectionné 30 élèves qui voulaient participer d'eux-mêmes. Et donc voilà, c'est vraiment vous qui choisissez, Amnesty, elle est vraiment inclusive, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas.
Et pour finir, comment peut-on vous soutenir ou participer à vos actions ?
Eh bien, vous pouvez tout simplement adhérer à l'association, et puis venir nous aider à travailler, par exemple là, comme lors de l'émission radio, en faisant la régie ou encore en créant une chronique.
Jacadie, c'est aussi la plateforme en ligne jacadie.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadie.org.
Merci beaucoup à vous. Nous pouvons maintenant commencer notre mag Amnesty, excusez-moi, avec les actualités d'Amnesty en France. Je laisse donc la parole à Chloé et Sandra à propos des titres de séjour.
Certaines personnes pensent qu'être étranger en France, c'est avoir la vie facile. Qu'il suffirait de franchir la frontière pour bénéficier d'aide sociale, d'un toit, d'une vie confortable, mais la réalité est tout autre. Pour des milliers d'hommes et femmes, la vie ne tient qu'à un bout de papier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce bout de papier, le titre de séjour.
Imaginez, vous travaillez en France depuis des années. Vous payez des impôts, vous avez un logement, vos enfants sont scolarisés, vous avez une vie entière ici. Et puis, du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Pas à cause d'une faute ou d'un délit, mais à cause de l'attente d'un simple document administratif. Quand le titre de séjour expire, tout s'arrête. Plus de travail, plus de droits, plus de sécurité. En quelques semaines, une existence pourtant stable bascule dans la précarité.
Le combat d'Amnesty International, c'est justement de faire reconnaître le titre de séjour comme un droit humain fondamental. Et pour l'ONG, il s'agit d'une exigence de justice, car derrière des délais administratifs, derrière des guichets fermés ou des plateformes défaillantes, il y a un responsable, l'État. C'est lui qui, par son organisation, par ses lenteurs, par ses exigences toujours plus complexes, maintient des milliers de personnes dans une insécurité juridique et économique permanente.
Parce qu'aujourd'hui, et depuis les multiples changements de loi des années 2000, obtenir un titre de séjour est très difficile et le renouveler devient de plus en plus fréquent avec l'apparition des titres de séjour à courte durée qui forcent les travailleurs à devoir accepter des contrats aux conditions déplorables. Et ce sans parler de la taxe sur le renouvellement. 225 € pour chaque nouvelle carte, taxe qui a rapporté 193 millions d'euros à l'État français en 2017. Et depuis la généralisation des procédures en ligne, une nouvelle barrière est apparue, la barrière numérique. Quand on n'a pas accès à Internet, qu'on ne maîtrise pas les codes numériques et administratifs et qu'on ne maîtrise pas parfaitement la langue, ces démarches deviennent très éprouvantes.
Ces contraintes imposées ne sont pas des simples failles dans le système. Elles sont la conséquence d'une volonté d'imposer la précarité aux travailleurs étrangers pour en faire une main-d'œuvre disponible et peu chère, et pour les contraindre aux tâches les plus difficiles, En effet, ils sont surreprésentés dans des emplois les plus précaires à temps partiel, comme les caissiers, ouvriers dans le BTP, aides à domicile, etc.
Et c'est pour ces raisons qu'Amnesty exige l'abrogation de ces titres de séjour à courte durée au profit d'un titre de séjour unique pluriannuel pour le travail de 4 ans minimum, en plus de plusieurs autres mesures phares comme la demande d'un niveau de français A2 requis pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle.
Alors non, être étranger en France n'a rien de facile. Ce n'est pas vivre au crochet de la République, c'est au contraire devoir prouver sans cesse son droit d'y rester. Ce combat d'Amnesty, c'est un combat pour la dignité. Un titre de séjour, ce n'est pas un simple papier, c'est la possibilité de travailler, de se loger, de vivre. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir exister.
Donc si vous estimez également que l'accès à une vie décente à toute personne résidant en France devrait être la norme, une pétition est disponible sur le site de l'ONG, avec déjà plus de 72 000 signatures sur les 100 000 requises. Merci beaucoup.
Merci à vous les filles. Maintenant, nous allons écouter Simon, Adèle, Nathan et Violette pour un micro-trottoir. Ils sont allés gentiment à la rencontre des habitants de Pont-Audemer pour nous.
Bonjour, je me présente Adèle du lycée Jacques Prévert. Est-ce que vous connaissez Amnesty ?
Non.
D'accord. Amnesty, c'est une association qui milite pour le respect et la défense des droits humains partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez d'Amnesty ?
J'en sais rien, j'aime beaucoup, ça a l'air sympa. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre en place ?
Non.
D'accord. Et avez-vous des questions ?
Non, c'est bon.
D'accord. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, bonne journée.
Pas de soucis.
Bonjour, je me présente, Adèle, du lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer. Du coup, on fait partie du club Amnesty. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Amnesty ?
Oui, de loin.
D'accord. Donc, en gros, c'est une association qui vise à protéger les droits humains et le respect. Et est-ce que vous avez des idées de projets qu'on pourrait mettre en place au sein du lycée ?
Comme ça, pas trop, mais bon, vous me prenez un petit peu au dépourvu.
Nous, on avait peut-être des idées de faire des expositions pour viser à toucher les gens, pour aider les droits humains. Bonjour, je me présente Adèle du lycée Jacques Prévert. Est-ce que vous connaissez Amnesty International ?
Oui, je connais, oui.
D'accord. Vous savez ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de mettre en place ?
Oui, en fait, ils luttent pour, par exemple, libérer des otages, pour plus de liberté dans le monde, pour la liberté d'expression, pour des causes sociales, politiques, humanitaires.
D'accord, parfait. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, je pense que c'est très bien. Moi-même, j'ai signé à plusieurs reprises des pétitions pour soutenir Amnesty International. J'ai parfois donné de l'argent et je trouve que ce sont des causes justes.
D'accord, merci beaucoup. Et nous, du coup, on fait partie d'un club Amnesty au sein du lycée. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre en place ?
Alors là, c'est compliqué comme ça, brûle pour point, mais je pense qu'il faudrait essayer de faire des sondages auprès des lycéens pour regrouper des idées, par exemple.
Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Pas de soucis.
Merci à vous pour ce micro-trottoir. Je vais maintenant vous poser quelques questions si vous voulez bien. Alors en premier, comment s'est passé le contact avec la population ?
C'est assez mitigé. D'un côté, il y avait ceux qui ne voulaient pas du tout nous répondre, principalement des personnes âgées. Malgré le fait qu'on leur expliquait pourquoi on faisait cela, ils ne voulaient toujours pas être interviewés. Le problème n'étant pas de répondre à nos questions, mais plutôt le fait de parler dans le micro et de se faire enregistrer. On a quand même échangé avec certaines de ces personnes. De l'autre côté, le peu de personnes qui ont bien voulu nous répondre, en plus d'être enregistrées, ça s'est plutôt bien passé.
J'ai une autre question, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées du coup ?
La principale difficulté que nous avons rencontrée fut de persuader les personnes. Nous avons eu énormément de mal à convaincre la population de nous laisser les interviewer. Comme nous l'avons dit juste avant, plusieurs personnes ont refusé cette interview. Ce fut donc difficile de trouver des gens voulant bien participer à notre micro-trottoir. Une autre de nos difficultés fut aussi d'aller vers les gens, car nous avions peur de les redéranger. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué.
En général, les gens connaissaient-ils Amnesty ou est-ce qu'ils en avaient déjà juste entendu parler du moins ?
Dans la plupart des cas, peu de personnes connaissaient Amnesty International. Certains en avaient déjà entendu parler et savaient le principe le principal but d'Amnesty, défendre les droits humains dans le monde. On a quand même réussi à interviewer une très bonne connaisseuse d'Amnesty qui avait déjà fait plusieurs dons et signé des pétitions. Du coup, on était heureux d'avoir trouvé une personne comme ça.
Et pour conclure, comment vous avez choisi les personnes que vous avez interviewées ?
C'est vrai qu'au début, on choisissait un petit peu au hasard. Comme c'était le jour du marché, il y avait énormément de personnes âgées. Donc nous allions vers les gens qui avaient l'air les plus avenantes, mais cette stratégie n'a absolument pas fonctionné. Et nous avons donc décidé d'aller voir tout le monde. Nous avons aussi essayé de varier les profils, que ce soit des hommes et des femmes, mais aussi que ce soit des adultes et des adolescents, pour voir les différentes opinions.
Merci beaucoup à vous. Nous allons maintenant laisser place à Lola qui va nous présenter les actualités d'Amnesty en France.
Bonjour à toutes et à tous. Créé en 1961 par Peter Benenson, Amnesty International est une organisation internationale non gouvernementale. Elle est née de la défense des prisonniers d'opinion et s'élargit maintenant à l'ensemble des droits humains. Cette organisation est active dans plus de 70 pays et territoires. Anne Savinel Barras est la présidente d'Amnesty International France. Anciennement directrice des soins dans la fonction publique hospitalière, elle a été élue en 2024. Elle est engagée de longue date pour la défense des droits des personnes exilées, des libertés fondamentales et du respect du droit international dans les conflits. Amnesty International s'intéresse à toutes sortes de problèmes. Ainsi, l'organisation a publié en mars 2026 un article sur le basket. Il s'agit du témoignage d'Audrey, une basketteuse française exclue d'une compétition parce qu'elle porte le voile. Depuis 2022, la Fédération Nationale de Basketball interdit les signes religieux. Une mesure que l'athlète dénonce comme une discrimination, entravant la pratique sportive des femmes musulmanes. Le texte souligne que la France est une exception en Europe, car elle impose des restrictions vestimentaires absentes des règlements internationaux. Audrey raconte les conséquences psychologiques de cette mise à l'écart et parle de son engagement actuel dans le collectif Basket pour Toutes, où elle agit pour favoriser l'inclusion. Elle appelle à privilégier le talent sportif sur l'apparence afin de garantir le droit fondamental de chaque femme à exercer sa passion. Voilà un exemple du combat mené par Amnesty International. En conclusion, Amnesty International joue donc un rôle important dans la défense des droits humains à travers la France et le monde. En enquêtant, en dénonçant les injustices et en mobilisant les citoyens, l'organisation rappelle que les libertés fondamentales doivent être protégées partout et pour tous.
Merci beaucoup à toi Lola. Et pour nous présenter les actus d'Amnesty en France, nous allons écouter Julie Gaspard.
Alors bonjour à toutes et à tous. Comme vous venez de l'entendre, depuis plusieurs années, on a vu en France de nombreuses polémiques concernant la restriction de certaines libertés, comme en octobre 2025, où sous le prétexte de protéger la sécurité nationale, l'État s'est octroyé le droit de surveiller vos données par le biais de vos opérateurs ou encore sur la question des problèmes migratoires. Par ailleurs, dans un contexte politique aussi brûlant que celui-ci, la défiance vis-à-vis de la représentation politique se fait de plus en plus sentir, poussant les individus à prendre la parole face aux dangers que pourrait constituer le recul de la démocratie dans notre pays.
Bonjour. Cependant, Jules, pour veiller au bon fonctionnement de notre état de droit, Amnesty International publie chaque année un rapport sur la situation des droits humains dans le monde, et en particulier en France. Nous allons donc, avec Jules, pour vous, chers auditeurs, vous résumer un an d'enquête menée par les journalistes d'Amnesty International France.
Alors tout d'abord, Gaspard, au cours de son enquête, Amnesty a constaté qu'il y avait eu un renforcement de la surveillance de masse. Dans son rapport, elle cite notamment la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a estimé qu'il n'existait pas de garde-fous suffisamment forts pour garantir l'utilisation des caméras de vidéosurveillance de façon proportionnée et nécessaire des forces de l'ordre, et donc qu'il s'agirait d'une atteinte à la vie privée des individus. De même, face aux avancées technologiques, les villes se dotent maintenant de dispositifs d'audiosurveillance basés sur l'intelligence artificielle, ce que dénonce fermement Amnesty dans son rapport, notamment comme dans des villes comme à Orléans, où ces caméras sont aussi dotées de micros, constituant une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée des individus. Ainsi, on pourrait voir alors en France, dans notre vie privée, reculer face à ce genre d'installation dans nos communes. D'autre part, on a vu en 2025 un grand nombre de lois invalidées par le Conseil constitutionnel visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, mais celles-ci se sont révélées discriminatoires et xénophobes à l'égard des réfugiés. En effet, comme la loi de novembre 2023, sa version finale contenait des dispositions qui, entre autres, renforçaient les pouvoirs de l'autorité administrative en matière de détention et d'éloignement des personnes étrangères, considérées comme une menace pour l'ordre public selon le gouvernement. Aussi, on a vu au cours de l'année 2025 l'adoption de lois réduisant les garanties procédurales accordées aux demandeurs et demandeuses d'asile, notamment les garanties contre l'expulsion tant que les recours n'avaient pas été examinés. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre de l'Intérieur a d'ailleurs promis en septembre de renforcer les pouvoirs des autorités locales en matière de reconduite à la frontière des migrants en situation irrégulière et de refus de régularisation de leur situation, une mesure meurtrière, surtout lorsqu'on sait que l'année 2024 a été plus meurtrière que jamais, enregistrée dans la Manche. Où les autorités françaises et britanniques ont continué d'esquiver leurs responsabilités en matière de droits humains. Plus de 170 personnes ont péri en tentant de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France par voie maritime. Le ministre français de l'Intérieur a déclaré en octobre que ces décès en mer étaient les conséquences néfastes de l'efficacité des forces de l'ordre.
En effet, Jules, dans ce rapport, Amnesty International aborde d'autres questions, comme le transfert d'armes illégales. Le transfert d'armes par la France a toujours été fait avec transparence. Cependant, elle a manqué à son obligation de transmettre avant le 1er juin le rapport de transfert de l'année précédente, ce que dénonce Amnesty dans son rapport, car c'est une obligation légale du gouvernement. Cependant, malgré de nombreux appels d'experts de l'Organisation des Nations Unies, la France a continué à autoriser des exportations d'armes vers Israël, alors qu'un arrêt immédiat de tels transferts susceptibles de violer le droit international humanitaire avait été pris. De plus, le président français Emmanuel Macron s'était lui-même prononcé en faveur de l'arrêt de ces livraisons d'armes destinées à la guerre. Une parole qui n'a donc pas été respectée par le président français. Enfin, il existe une zone d'ombre, car aujourd'hui des armements français fournis aux Émirats Arabes Unis continuent d'apparaître dans des conflits comme au Soudan. Une utilisation qui pourrait violer des embargos décrétés par l'Union Européenne et l'ONU, notamment en ce qui concerne le Darfour. Amnesty dénonce donc également des transferts d'armes dangereux et irresponsables par la France. Enfin, Amnesty ne dénonce pas forcément le négatif dans les rapports sur les pays qu'elle rend. En effet, elle souligne également le désir de changement et le positif par ces derniers. Concernant les droits sexuels et reproductifs, la France avance, mais il existe toujours certaines limites. Le 8 mars 2023, la France franchit une nouvelle étape en devenant le premier pays au monde à inscrire dans sa constitution la liberté à recourir à l'IVG ou interruption volontaire de grossesse, ce qui est une avancée historique et importante pour les droits des femmes. Mais malgré cette avancée, ce droit comporte des limites. En effet, ce droit ne bénéficie pas encore à toutes les personnes concernées. Les hommes transgenres ou non-binaires n'ont pas encore accès à ce droit. Pour conclure, à travers ce rapport, Amnesty dénonce et relève les limites des violations des droits des individus, mais elle souligne également les bonnes actions des pays sur qui elle se base. Ce rapport permet d'en apprendre davantage et de nous instruire sur notre pays et les droits qu'il peut nous limiter. Pour terminer, nous vous invitons à aller lire, consulter et discuter du rapport qui va aborder l'année 2025, qui devrait être publié dans les prochaines semaines ou prochains mois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup les garçons, et pour conclure ce MAC d'Amnesty en France, on va maintenant écouter Augustin, qui va nous parler de l'amnestienne.
Pour agir pour les droits humains de façon originale, Amnesty a par exemple créé une course de relais qui réunit à la fois des sportifs, mais aussi des personnes qui ne pratiquent pas l'athlétisme régulièrement. Le but de l'amnestienne, qui est le nom de cette course, c'est de faire connaître Amnesty, sensibiliser les personnes de notre entourage sur le recul des droits partout dans le monde, et donc de faire des dons à cette association pour agir. La course réunit plusieurs équipes de 4 relayeurs qui se séparent à la course qui dure 4 heures. Les coureurs courent en pleine forêt sur un circuit de 1,8 km. L'objectif pour chaque équipe n'étant pas de gagner la course, mais de récolter 1000 euros en créant une page de collecte. Amnesty vous aide bien sûr à atteindre cet objectif, notamment en vous aidant à créer la page de collecte en ligne. L'événement se fait festif car il ne se limite pas qu'à la course vu qu'il y a des concerts qui l'animent, mais aussi un show de lumière et toute autre animation. En faisant ceci, Amnesty montre qu'on peut aussi agir dans la joie et la bonne humeur, et qu'en plus, tout le monde peut se mobiliser. La course étant ouverte à tout le monde, même à des personnes en situation de handicap. On peut la faire soit en marchant, soit en courant, mais aussi en fauteuil roulant adapté. Tout ça montre que tout le monde peut agir, résister et résister à sa manière, pour les droits dans le monde. Si vous voulez vous inscrire, il faudra débourser 15 euros. L'amnestienne se déroule le 30 mai au bois de Vincennes, de 16h à 23h.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Rebonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur Jacadie, la radio du lycée Prévert. Je me présente, je m'appelle Lilou et nous allons ensemble découvrir les chroniques de la seconde partie du MAG Amnesty, c'est-à-dire les actions d'Amnesty du point de vue du monde. Avant de continuer, j'aimerais remercier Jade qui m'a précédée et qui vous a présenté la première partie de notre MAG. Nous allons alors commencer par écouter Camille, Louane et Zoé et leur chronique sur la peine de mort dans le monde.
Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui reste d'actualité, la peine de mort. En effet, cette punition pratiquée depuis des siècles consiste en la mise à mort d'une personne reconnue coupable d'un crime. Pourtant, au XXIe siècle, elle reste en vigueur dans de nombreux pays à travers le monde tels que la Chine, l'Afghanistan, l'Inde ou encore certains États des États-Unis. Il est important de se rappeler que depuis 1977, Amnesty International se bat activement pour l'abolition totale de cette peine qui constitue une violation des droits humains. À l'époque, seulement 16 pays avaient décidé de l'abolir. Aujourd'hui, la tendance est encourageante puisque plus de 2/3 des pays l'ont abolie et 113 pays l'ont totalement abolie en droit en 2023, soit un total de 145 pays ayant aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Cependant, la lutte ne s'arrête pas là. La peine capitale demeure. En 2024, on compte 100 518 exécutions dans 15 pays. Ce chiffre est en hausse de 32% par rapport à 2023, ce qui en fait le niveau le plus élevé depuis 2015. De plus, ce chiffre ne tient pas en compte certains pays comme la Chine où les données sur les exécutions sont tenues confidentielles et où des milliers d'exécutions auraient lieu chaque année.
Et concrètement, que fait Amnesty International pour lutter contre la peine de mort ?
Amnesty International ne se contente pas de dénoncer. L'organisation agit concrètement partout dans le monde. Ses actions sont variées. Elle publie des rapports détaillés, elle surveille les pratiques des États, fait pression sur les gouvernements, mène des campagnes internationales de mobilisation citoyenne et intervient dans des cas individuels pour sauver des vies. Un exemple marquant est celui de Moses Akutugba. Ce jeune Nigérien de 16 ans a été arrêté en 2005, accusé d'avoir volé 3 téléphones portables lors d'un braquage. Il a été torturé par la police et forcé de signer des aveux qu'il a toujours contestés. Amnesty International a joué un rôle clé dans sa libération. Plus de 800 000 messages et pétitions ont été envoyés au gouverneur nigérien. Des mobilisations ont eu lieu dans plusieurs pays et cette pression internationale a finalement conduit à sa grâce en 2015, après 10 ans passés dans le couloir de la mort. Malgré les avancées, la situation reste préoccupante. En 2024, au moins 2087 personnes ont été condamnées à mort dans 46 pays, soit environ plus de 5 personnes tuées tous les jours pendant un an. Un autre chiffre est particulièrement inquiétant. 87% des exécutions hors Chine sont consacrées dans 2 pays seulement, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Cela s'explique par le fait que ces 2 États ont recours à la peine de mort pour punir des opposants politiques ou étouffer toute révolte. Le travail d'Amnesty ne doit pas s'arrêter là.
Et selon Amnesty, la peine de mort concerne-t-elle les enfants ?
Oui, elle peut aussi concerner les mineurs. Malgré le fait que le recours à la peine de mort pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans est interdit par le droit international relatif aux droits humains, certains pays continuent à l'appliquer. Amnesty dénombre au moins 176 exécutions de personnes ayant moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés. Et ceci dans 11 pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, la République démocratique du Congo, le Yémen ou encore le Nigeria, comme pour l'affaire de Moses Akutugba. Ce chiffre, en comparaison au nombre total des exécutions recensées chaque année par Amnesty, reste faible, mais n'en est pas moins d'une grande importance, car il remet en question l'engagement des États à respecter le droit international. L'Iran, notamment, a exécuté plus de 122 personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits pour lesquels elles ont été condamnées. De plus, les méthodes d'exécution utilisées n'ont presque pas évolué. En 2024, plusieurs cas de décapitation, pendaison, d'exécution par balle, ou encore d'asphyxie par inhalation d'azote ont été recensés.
Est-ce que vous avez un mot pour conclure ?
Pour Amnesty International, la peine de mort constitue une violation fondamentale des droits de l'homme car elle viole notamment le droit à la vie et l'interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants protégés par la Déclaration des droits de l'homme. La peine de mort est une sanction irréversible qui peut conduire à l'exécution d'innocents. De plus, elle n'a jamais prouvé son efficacité pour dissuader la criminalité et s'applique souvent dans des systèmes judiciaires injustes. Même si le nombre de pays qui l'appliquent diminue, la lutte continue et doit continuer jusqu'à son abolition totale. Aujourd'hui, des milliers de vies sont en jeu. Merci.
Merci beaucoup à toutes les trois. On change maintenant de décor et on va retrouver Lola et Lana qui vont nous parler du traitement des femmes en Corée du Sud.
Le 17 mai 2022, Amnesty publie un article rédigé par Nikkei Asia pour nous avertir de la situation des femmes en Corée du Sud.
En effet, le président au pouvoir Yoon Suk-yeol a tenu des propos antiféministes et a notamment promis d'abolir le ministère de l'égalité des sexes. Il dit également que la discrimination systémique n'existerait pas. Pourtant, les chiffres de l'OCDE montrent le contraire. En effet, les salaires des femmes en Corée du Sud sont de 31,5% inférieurs aux hommes en moyenne. Mais d'où viennent toutes ces idées misogynes du président de Corée du Sud ? Yoon Suk-yeol se base sur des croyances qui affirment que la femme n'est en rien égale à l'homme. Il part même du principe que la femme n'est pas une personne à part entière et ne peut donc pas avoir les mêmes droits que son semblable masculin. Les femmes ne seraient donc qu'un objet sexuel.
Mais dès mars 2020, des vidéos montrant des scènes de viol de femmes majeures ou non sont vendues sur NTH Room. Ce sont plus de 60 000 personnes qui achètent ces vidéos en Corée du Sud. Les violences liées au genre se sont majoritairement développées sur Internet. De plus, le taux de viol en Corée du Sud a été multiplié de 1,6% depuis 2003, alors qu'il était en baisse dans tous les pays développés. De plus, l'article nous explique que sous la pression des agresseurs, les victimes n'osent plus porter plainte. Depuis l'affaire NTH Room, une loi a été créée en octobre 2021 qui prévoit une sanction pénale pour toutes les plateformes qui ne bloqueraient pas la circulation de contenu numérique comprenant des crimes sexuels.
Mais quel rôle joue le président de la Corée du Sud dans cette affaire-là ? Le problème est que malgré les mesures mises en place par le ministère de la Justice, les stéréotypes de genre restent encore trop présents et sont néfastes pour la société sud-coréenne. Les lois ne suffisent pas, ce sont les mentalités qui doivent évoluer. Et ceci serait notamment possible grâce au président. Yoon Suk-yeol devrait reconnaître l'existence des discriminations et des stéréotypes de genre et proposer de nouvelles politiques pour lutter contre ces derniers. Cependant, vu les affirmations du président, c'est une démarche qui risque de ne pas voir le jour.
Merci beaucoup pour cette chronique. On enchaîne maintenant avec celle de Noan, Lola et Raphaël au sujet des actions d'Amnesty au Soudan.
Le Soudan, situé au nord-est de l'Afrique, est un pays avec une histoire complexe et marquée par des conflits récurrents. Pendant plus de deux décennies, il a été secoué par une guerre civile entre le nord, majoritairement arabe et musulman, et le sud, plus chrétien et animiste. Cette guerre a pris fin en 2005 avec un accord de la paix, mais les tensions n'ont jamais vraiment disparu. En 2011, le sud du Soudan a obtenu son indépendance, donnant naissance au Sud-Soudan, mais laissant le nord, le Soudan actuel, toujours fragile, politiquement et économiquement.
Depuis l'indépendance, le pays a connu plusieurs coups d'État et des affrontements internes entre l'armée et des milices, souvent pour le contrôle des ressources comme le pétrole et les terres agricoles. En avril 2023, une nouvelle guerre a éclaté entre deux factions majeures de l'armée soudanaise, la force de soutien rapide et l'armée nationale. Ce conflit, concentré dans les villes principales comme Khartoum, a provoqué un chaos total. Bombardements, tirs sur les quartiers civils, destruction massive d'infrastructures et d'effondrement des services de base.
Des millions de personnes ont dû fuir leur domicile, certains à l'intérieur du pays, d'autres vers les pays voisins. Les besoins humanitaires sont énormes et la population civile est prise en otage dans un conflit qui semble n'avoir ni fin ni règle. En quelques semaines, ce qui aurait pu rester un conflit militaire limité s'est transformé en crise humanitaire majeure, où chaque jour compte pour la survie des civils. Et c'est dans ce contexte de violence et de chaos que la communauté internationale se mobilise, même si la situation reste extrêmement dangereuse et instable.
Aujourd'hui, nous faisons donc un point sur la situation du Soudan, qui est donc plongé dans un conflit armé depuis avril 2023, et sur les alertes lancées par Amnesty International.
Donc comme dit précédemment, ce conflit oppose les armées soudanaises aux forces d'appui rapide. Mais selon Amnesty International, d'autres groupes armés se sont progressivement implantés, ce qui a aggravé la violence et étendu les combats à plusieurs régions du pays, comme notamment le Darfour.
Et ce sont surtout les civils qui en payent le prix. Amnesty dénonce des attaques menées dans des zones habitées, avec des bombardements, des tirs d'artillerie lourdes et des combats en pleine ville. Résultat, des dizaines de milliers de morts et de blessés, en grande majorité des civils.
L'organisation insiste aussi sur les violations graves des droits humains. Parmi elles, les violences sexuelles occupent une place importante. Des femmes et des filles sont régulièrement victimes de viols, parfois collectifs, utilisés comme armes de guerre pour terroriser les populations.
Oui, et dans certains cas, ces violences sont commises devant les membres de la famille, ce qui renforce encore leur gravité. Amnesty parle de pratiques répandues, notamment dans certaines régions comme le Darfour.
Autre conséquence majeure du conflit, les déplacements de population. Aujourd'hui, plus de 11 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Des millions d'autres ont fui vers des pays voisins comme l'Égypte, le Tchad ou encore le Soudan du Sud.
Mais même en dehors du Soudan, la situation reste très difficile. Amnesty International dénonce des expulsions forcées de réfugiés, notamment en Égypte, où certaines personnes ont été renvoyées de leur pays sans pouvoir demander une protection.
Sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Une grande partie de la population souffre de la faim. On parle de plus de la moitié des habitants touchés par l'insécurité alimentaire. Les prix des produits de base ont fortement augmenté, rendant l'accès à la nourriture encore plus difficile.
À cela s'ajoutent des pillages et des destructions. Des maisons, des hôpitaux, des sources d'eau et des infrastructures essentielles ont été détruites. Cela prive les populations de leurs moyens de survie et viole leurs droits économiques et sociaux.
Un autre point important soulevé par Amnesty International concerne les armes. Malgré un embargo de l'ONU limité au Darfour, des armes continuent d'être envoyées au Soudan par plusieurs pays. Ces livraisons alimentent le conflit et contribuent directement aux violences.
L'organisation critique aussi la réponse de la communauté internationale jugée trop faible, selon elle. Les mesures prises jusqu'à présent ne permettent ni de protéger efficacement les civils, ni de mettre fin aux violences.
Certaines de ces armes sont récentes et Amnesty a même montré que des armes destinées au marché civil pouvaient être transformées en armes de guerre. Cela montre à quel point les contrôles sont insuffisants.
Autre problème, la coupure de communication. Dans certaines zones, Internet et les réseaux téléphoniques ont été fortement perturbés, ce qui empêche les habitants de s'informer et complique le travail des organisations humanitaires.
Enfin, Amnesty insiste sur l'impunité. Les responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ne sont presque jamais jugés. Cela permet aux violations de continuer sans conséquence.
Face à cette situation, Amnesty appelle à des actions urgentes. Élargir l'embargo sur les armes à tout le pays, arrêter les transferts d'armes, protéger les civils, garantir l'accès à l'aide humanitaire et rendre justice aux victimes.
En résumé, le Soudan traverse aujourd'hui une crise humanitaire majeure et les alertes d'Amnesty International montrent l'urgence d'agir.
Mais pour l'instant, malgré ces appels, la situation continue de se détériorer.
Merci de votre écoute.
Merci à vous trois. Place maintenant au portrait d'un acteur international d'Amnesty avec Daphné.
Je vais donc vous parler d'Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International depuis 2021. Agnès Callamard fait partie de ces figures qu'on ne choisit pas vraiment d'ignorer. Dans un monde saturé d'informations, de conflits et de discours contradictoires, elle incarne une voix claire, parfois dérangeante. À la tête d'Amnesty International, elle occupe aujourd'hui une position stratégique. Celle de porter, face aux États, une exigence simple en apparence, mais redoutablement complexe dans la réalité, le respect des droits humains. Ce qui frappe d'abord chez elle, c'est son parcours. Avant de devenir une figure politique, Agnès Callamard a longtemps évolué dans des cercles plus discrets de l'expertise internationale. Elle est d'abord universitaire, chercheuse spécialisée en justice internationale et enseigne à l'Université de Columbia depuis 2013. Elle est également rapporteuse spéciale des Nations Unies et a été directrice exécutive d'Article 19, une organisation de défense des droits de l'homme. Son nom s'est imposé sur la scène internationale avec une affaire qui a bouleversé l'opinion mondiale. L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Chargée d'enquêter, elle ne s'est pas contentée d'un rapport technique. Elle a pointé des responsabilités, nommé des coupables potentiels et surtout, elle a refusé de céder aux pressions diplomatiques. Dans un univers où les équilibres géopolitiques dictent souvent le silence, cette prise de position a marqué un tournant. Elle a montré qu'une voix indépendante pouvait encore exister, même face à des puissances influentes. Mais réduire Agnès Callamard à cette seule affaire serait passer à côté de l'essentiel. Ce qui la caractérise, c'est sa constance, celle de défendre sans relâche les principes fondamentaux du droit international. Liberté d'expression, protection des civils, lutte contre l'impunité, autant de combats qu'elle mène avec une détermination qui ne laisse que peu de place à la neutralité. Ce positionnement n'est pas sans conséquences. Dans un monde de plus en plus polarisé, où les ONG sont parfois accusées de partialité, elle est régulièrement critiquée. Trop engagée pour certains et pas assez pour d'autres. Et c'est peut-être précisément là que réside son rôle, accepter d'être contestée pour continuer à poser des questions que beaucoup préféraient éviter. Alors que représente-t-elle aujourd'hui ? Sans doute une forme de résistance, pas une résistance spectaculaire ou héroïque, mais une résistance méthodique presque obstinée. Celle de continuer à nommer les violations, à documenter les abus, à rappeler que derrière les chiffres et les stratégies, il y a des vies humaines.
Merci Daphné. À présent, nous rejoignons Lila et Juliette pour qu'elles nous parlent des crimes commis au Liban.
Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la situation au Liban et sur les actions menées par Amnesty International dans ce pays, où les droits humains sont fortement fragilisés. Depuis plusieurs années, le Liban traverse une profonde crise. À la crise économique et politique s'ajoute une instabilité sécuritaire, aggravée récemment par le conflit entre Israël et le Hezbollah. Ce contexte a des conséquences dramatiques pour la population civile, bombardements, destructions massives, déplacements forcés et difficultés d'accès aux soins ou à la justice. Face à cette situation, Amnesty International joue un rôle essentiel. L'organisation documente les violations des droits humains, alerte l'opinion publique et fait pression sur les gouvernements.
Par exemple, dans un rapport publié en 2025, Amnesty révèle que plus de 10 000 bâtiments civils ont été détruits ou endommagés dans le sud du Liban, parfois de manière délibérée. L'ONG appelle aussi à ce que ces actes fassent objet d'enquêtes pour crimes de guerre, soulignant que la destruction de maisons, de routes ou de terres agricoles n'est pas justifiée par des nécessités militaires. Amnesty s'intéresse aussi aux attaques contre les structures médicales. Lors de frappes en 2024, des hôpitaux, des ambulances et du personnel soignant ont été visés. Ces attaques ont causé la mort de plusieurs secouristes et affaibli un système de santé déjà très fragile.
Là encore, l'organisation demande des enquêtes internationales et insiste sur la protection des civils et des infrastructures médicales. Plus récemment, en mars 2026, Amnesty a dénoncé les ordres d'évacuation massives imposés à des centaines de milliers de civils dans certaines régions du Liban. Selon l'ONG, ces consignes trop vagues ont provoqué la panique et aggravé la crise humanitaire sans réellement garantir la sécurité des populations. Mais le travail d'Amnesty ne s'arrête pas à dénoncer. L'organisation agit aussi pour obtenir justice. En février 2026, elle a participé à une lettre adressée au gouvernement libanais pour réclamer des mesures concrètes. Enquête sur les crimes, reconnaissance des victimes et accès à des réparations. Amnesty demande également que le Liban coopère avec la Cour pénale internationale pour lutter contre l'impunité. Enfin, l'ONG alerte sur d'autres problèmes plus structurels comme les pressions sur les journalistes, difficultés pour les réfugiés syriens ou encore blocage de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Autant de situations qui montrent que les droits fondamentaux restent fragiles dans le pays.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Merci Lila et Juliette. On retrouve maintenant Léna, Olympe, Maxine et Margot pour écouter une chronique sur le droit des enfants.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olympe et aujourd'hui je suis ici pour vous parler d'un sujet essentiel, avec trois autres personnes de seconde. Les droits humains des enfants dans le monde et le rôle que joue Amnesty International pour les défendre. Quand on parle des droits de l'enfant, on parle des droits fondamentaux, universels, qui devraient s'appliquer à tous sans exception. Chaque enfant, peu importe son pays, son origine ou sa situation, a le droit de vivre en sécurité, d'être protégé, d'apprendre, de s'exprimer et de grandir dignement. Ces droits sont inscrits dans un texte important, la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989. Ce texte reconnaît que les enfants ne sont pas seulement des adultes à devenir, mais des personnes à part entière, avec des droits spécifiques qui doivent être respectés et protégés. Je donne ensuite la parole à Margot, qui nous montrera que ces droits ne sont pas forcément respectés, même avec les lois mises en place.
Pourtant, dans la réalité, ces droits sont encore trop souvent oubliés. Aujourd'hui, des millions d'enfants dans le monde n'ont toujours pas accès à l'éducation, alors que selon l'article 28, qui garantit le droit à l'éducation, aller à l'école n'est pas un privilège, mais un droit. Pourtant, aujourd'hui encore, des millions d'enfants en sont privés. Certains doivent travailler dès leur plus jeune âge pour survivre, parfois dans des conditions très dangereuses. D'autres sont victimes de violences, d'exploitation ou de discrimination. L'article 19 protège les enfants contre toute forme de violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Aucun enfant ne devrait subir de maltraitance. Dans certaines régions du monde, des enfants sont même enrôlés dans des conflits armés. Ils deviennent alors des enfants soldats, privés de leur enfance et exposés à des traumatismes graves. D'autres encore sont forcés de fuir leur pays à cause de la guerre ou de la pauvreté et deviennent des enfants migrants ou réfugiés, souvent confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles. Je vais à mon tour donner la parole à Léna qui va vous parler des filles en particulier ainsi que des actions d'Amnesty.
Les filles en particulier sont souvent plus vulnérables. Dans certains pays, elles sont privées d'éducation ou contraintes à des mariages précoces, ce qui compromet leur avenir et leur liberté. Face à toutes ces injustices, Amnesty International joue un rôle essentiel. Son travail repose sur plusieurs actions. D'abord, Amnesty mène des enquêtes approfondies pour documenter les violations des droits des enfants. Ensuite, elle publie des rapports pour alerter l'opinion publique et les médias. Elle fait aussi pression sur les gouvernements pour qu'ils changent leurs lois ou leurs pratiques. Mais Amnesty, c'est aussi un mouvement de citoyens. Des millions de personnes à travers le monde se mobilisent en signant des pétitions. En particulier, en participant à des campagnes ou en écrivant des lettres pour soutenir des victimes et demander justice. Par exemple, Amnesty agit pour faire libérer des mineurs détenus injustement, pour protéger les enfants migrants contre les expulsions abusives ou encore pour garantir l'accès à l'éducation, notamment pour les filles.
L'organisation lutte également contre les violences policières envers les jeunes, contre les discriminations et pour le respect de la liberté d'expression, y compris chez les mineurs. Mais il est important de comprendre que la défense des droits des enfants ne concerne pas seulement les grandes organisations internationales. Chacun d'entre nous peut agir à son niveau. En tant que jeunes, nous avons une voix. Nous pouvons nous informer, sensibiliser notre entourage, participer à des projets comme celui d'aujourd'hui ou encore nous engager dans des actions solidaires. Même des gestes simples comme partager une information ou signer une pétition peuvent contribuer à faire évoluer les choses. Parce que défendre les droits des enfants, ce n'est pas seulement parler des autres. C'est aussi défendre une vision du monde plus juste, plus égalitaire et plus humaine. Merci pour votre écoute.
Jacadi, la radio du lycée Prévert.
Merci à vous pour cet échange. Place maintenant à notre chronique avec Héloïse et Elisa au sujet de l'accès à l'éducation.
Pour nous Français, l'accès à l'école nous semble être banal. On est certain que le lycée sera à la même place qu'hier et qu'on rentrera en vie à la maison. Pourtant, ce scénario paraît invraisemblable pour les Iraniens ou les Nigériens. En effet, un rapport publié par Amnesty le 17 mars 2026, on y apprend que les frappes états-uniennes ont touché une école le 28 février, faisant 168 morts, dont 110 écoliers. Les pays en guerre sont extrêmement touchés par les difficultés d'accès à l'école. Ici, les frappes états-uniennes constituent une grave violation du droit international humanitaire. L'association Amnesty International appelle la mise en place d'une enquête impartiale, indépendante et transparente de toute urgence.
D'après un rapport Amnesty International publié le 13 avril 2022, au Nigeria, plus de 1500 écolières et écoliers ont été enlevés par des groupes armés depuis 2014. Cela illustre l'incapacité des autorités nigérianes à prévenir les enlèvements et montrant qu'elles n'ont pas tiré les leçons de l'enlèvement de 276 lycéens de Chibok par Boko Haram il y a aujourd'hui 12 ans. Les conséquences sont graves. Les jeunes sont privés de leur droit à la liberté. Aussi, la recrudescence des enlèvements génère des fermetures prolongées d'établissements scolaires. Ainsi, dans les régions touchées, les équipes d'Amnesty constatent une baisse des inscriptions et de l'assiduité à l'école. Les parents dont les enfants doivent commencer à étudier se retrouvent confrontés à un dilemme. Les inscrire ou non. S'ils le font, ils craignent que leurs enfants ne reviennent pas à la maison. Cela a pour conséquence une hausse des mariages d'enfants et des grossesses chez les filles en âge d'être scolarisées. Amnesty International demande alors au Nigeria de respecter la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant à laquelle elle fait partie. Elle aussi, elle demande aux autorités nigérianes de prendre des mesures concrètes en vue de prévenir les enlèvements d'enfants, veiller à ce que les responsables présumés soient jugés dans le cadre de procès équitables et faire délivrer les centaines d'enfants encore en captivité.
Victor Hugo disait dans son écrit après la visite en Dimbagne « Faute d'éducation, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées ». L'accès à l'enseignement est un droit pour tous, fondamental et permettant la liberté des individus. L'association Amnesty International se bat en permanence pour dénoncer ce manque au droit international. Merci pour votre écoute.
Merci pour cette présentation. Nous allons à présent écouter Yakim et Romain et leur chronique sur les politiques migratoires aux États-Unis.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain et aujourd'hui avec mon acolyte Yakim, nous allons vous parler de la situation actuelle des migrants aux États-Unis et les actions concrètes lancées par Amnesty International. Aujourd'hui, focus sur la politique migratoire aux États-Unis et sur les réponses apportées par Amnesty International face aux actions de Immigration and Customs Enforcement ICE.
Alors maintenant, on va se demander, mais que se passe-t-il sur le terrain ? Alors depuis récemment, les opérations menées par l'ICE se sont intensifiées. Arrestations en hausse, expulsions accélérées et surtout une extension des profils ciblés. Aujourd'hui, de nombreuses personnes arrêtées n'ont aucun antécédent judiciaire. Les interventions ne se limitent plus à la frontière, elles ont lieu dans des espaces du quotidien, lieux de travail, domicile, parfois même à proximité d'écoles. Cette omniprésence alimente un climat de peur dans certaines communautés. Autre point de tension, les conditions de détention. Plusieurs témoignages et enquêtes évoquent des centres surpeuplés, un accès limité aux soins et des situations de détention prolongées sans jugement clair. Certaines expulsions sont également dénoncées pour leur méthode jugée brutale, avec notamment l'usage de contraintes physiques sur de longues durées. Finalement, une politique migratoire de plus en plus critiquée, accusée de privilégier la dissuasion au détriment des droits humains.
Quelles sont les actions concrètes d'Amnesty International ? Face à cela, Amnesty International ne se contente pas d'observer, elle agit. D'abord par l'enquête. L'organisation envoie des équipes sur le terrain pour documenter précisément les conditions dans les centres de détention. Ces investigations donnent lieu à des rapports détaillés qui servent de base pour alerter l'opinion publique et les institutions internationales. Ensuite, par la mobilisation. Amnesty lance régulièrement des pétitions mondiales pour faire pression sur les autorités américaines. Elle appelle notamment à mettre fin aux détentions systématiques et à fermer certains centres jugés abusifs. L'organisation mène aussi un travail de plaidoyer politique. Elle interpelle directement les élus, propose des réformes concrètes et milite pour un accès réel à l'asile et à la justice pour les migrants. Enfin, Amnesty soutient les mobilisations citoyennes sur place, en relayant les actions locales et en encourageant les citoyens à s'engager. Manifestations, campagnes d'information, pression économique sur les entreprises liées à l'ICE.
Merci à vous. Tout de suite, la présentation de Martin et Léa au sujet de la situation en Afrique post-apartheid.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Nous allons vous parler de la détérioration des droits humains en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1990. Pour commencer, selon Amnesty International, l'apartheid est un système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Le terme « apartheid » a d'abord été utilisé pour désigner le régime politique de l'Afrique du Sud de 1948 à 1991.
En 1948, le gouvernement sud-africain a mis en place une législation instaurant la ségrégation raciale. La séparation territoriale entre les Blancs et les autres groupes ethniques du pays ne sera abolie qu'en 1991. Depuis la libération de Nelson Mandela en 1990, celui-ci a aboli différentes lois discriminatoires. Seulement d'importants problèmes persistent encore. C'est ce que nous allons voir tout de suite. En premier lieu, deux grandes factions s'affrontent violemment au sein de la population noire. L'ANC, Congrès National Africain, le parti historique de Nelson Mandela, et l'IFP, Inkatha Freedom Party, parti anti-apartheid, spécifiquement Zoulou. L'un des principaux massacres est précisément celui du 17 juin 1992 à Boipatong, au cours duquel 45 personnes sont tuées par des membres de l'IFP. Le spécialiste Gilles Tellier estime qu'on compte environ 15 000 morts pour raisons politiques entre 1990 et 1994, contre 20 000 en tout pendant la période de l'apartheid. Et qu'on peut parler d'une véritable guerre civile entre l'ANC et l'IFP à cette époque.
Par ailleurs, le pays connaît depuis les années 1980 une nette dégradation de sa situation économique. En raison de la tertiarisation de l'économie, les activités industrielles s'effondrent et le chômage frappe une part croissante de la population. Même si des chiffres fiables sont difficiles à trouver, il semble que le taux de chômage double entre 1980 et 1992 pour atteindre une fourchette comprise entre 20% selon l'estimation officielle et 30% selon l'estimation de la Banque mondiale. L'insuffisance de l'éducation des enfants noirs, en partie responsable de leurs difficultés à accéder une fois adulte à des emplois qualifiés. L'école est en effet un sujet majeur de conflit pendant l'apartheid. L'appel au boycott massif des écoles sud-africaines noires et métisses de 1980 est ainsi massivement suivi. Enfin, si les lois les plus emblématiques de l'apartheid ont été abolies en 1991, notamment sur les questions foncières, les discriminations persistent, notamment sur les lieux de travail. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, plus précisément selon les derniers chiffres de 2021, l'Afrique du Sud reste travaillée par des lignes de fracture profondes. À la crise économique et sécuritaire s'ajoutent désormais des revendications territoriales inédites, au premier rang desquelles l'idée d'une indépendance du Cap Occidental. Seule province à n'avoir jamais accordé sa majorité à l'ANC, le Cap Occidental est actuellement gouverné par la Démocratique Alliance, formation libérale qui a bâti sa crédibilité sur la promesse d'une gestion plus rigoureuse, moins clientéliste et plus efficace que celle du pouvoir central. Depuis 2018, elle a placé à sa tête un pur produit de la bourgeoisie africaine, Alan Wendy.
Une réalité dérangeante, l'Afrique du Sud demeure profondément racialisée. Un sondage réalisé en août 2023 par la CIAG révèle d'ailleurs une fracture idéologique inquiétante qui met tout le concept de nation arc-en-ciel, notion inventée par l'archevêque Desmond Tutu afin de désigner son rêve de voir construire une société sud-africaine post-raciale, en échec. Seuls 31% des Sud-Africains noirs interrogés adhèrent à l'idée que le pays appartient à tous ses habitants, quelle que soit leur race, contre 80% des métis et 88% des blancs. La dangereuse escalade de la violence de ce pays est la conséquence directe de la fuite de l'État de la Cour pénale internationale. Avec cette décision de retrait, le pays trahit les millions de victimes de très graves violations des droits humains et sape le système de justice internationale. Le soutien qu'a porté l'Afrique du Sud à la CPI, après avoir souffert pendant des décennies de l'apartheid, contribuait pour une large part à la création de sociétés respectueuses des droits à travers le monde. L'Afrique du Sud doit engager un dialogue constructif avec les CPI afin de trouver une solution aux préoccupations légitimes qu'elle pourrait avoir, au lieu de prendre des mesures qui vont porter atteinte à l'image du pays et au combat mené mondialement pour la paix et la justice. Nous pouvons voir que le nombre de viols a augmenté de 3,9% pour s'établir à 41 583 au cours de l'année 2019, et 2771 femmes ont été assassinées. C'est dans l'intimité des ménages que la violence domestique se dessine et devient de plus en plus banalisée.
Les fonds des Nations Unies pour l'enfance déplorent une violence alimentée par des normes sociales néfastes, des inégalités de genre, la pauvreté et des cadres juridiques fragiles. En se basant sur des données fournies par le DHS programme, études des démographiques et de santé et reprises par la Banque mondiale, de nombreuses Africaines estiment que leur époux peut les violenter dans les cas suivants. Si la femme sort sans prévenir son mari, si elle se dispute avec lui, si elle néglige ses enfants et si elle refuse des relations sexuelles. Voici le témoignage d'une jeune femme sud-africaine. Quand elle rentrait tard la nuit, j'entendais juste le bruit de la porte et déjà, mes mains commençaient à trembler. Je me demandais ce qu'il allait encore faire. Poursuit Monique M. Panda. Il me frappait souvent. C'est arrivé qu'il me frappe pour la nourriture. Un autre jour, c'est parce que j'avais parlé à la voisine, donc pour des raisons qui n'étaient même pas claires.
Merci pour cette chronique. Pour conclure, les combats d'Amnesty International ne doivent pas rester dans l'ombre. C'est aussi notre devoir d'en parler, de les faire connaître et de ne pas rester indifférent. En tant que lycéens, on peut déjà agir en s'informant et en partageant ces causes autour de nous. Parce que défendre les droits humains, c'est l'affaire de tous.
Agir, préserver et lutter. Militer, dénoncer, s'engager, protéger. Agir ensemble pour un avenir commun. Face aux injustices du monde, luttons pour l'égalité des droits. Amnesty International, on se bat ensemble, on gagne ensemble.
Avant de nous quitter, je tenais à prendre quelques instants pour remercier toute l'équipe d'Amnesty pour ses engagements et ses chroniques. Il faut aussi remercier Gaspard, Jules et Yakim, les trois fondateurs de la section Amnesty au lycée. Et on n'oublie surtout pas Monsieur Le Poitevin et toute l'équipe technique de la radio Jacadis, sans qui je ne pourrais pas vous parler actuellement. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter, de nous envoyer du soutien. C'est très important pour nous. Merci beaucoup.
Jacadis, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacadis.org.